Studio Tamani, voici les informations en français.
Et c'est avec Mariam Maïga à la présentation. Mamadou Ouattara assure la mise en onde. Monsieur Dam, bonjour et bienvenue à la synthèse de l'actualité matinale. Voici les titres. Près de 2000 jeunes des régions de Ségou et de Kayes bénéficieront bientôt des opportunités d'emploi. Objectif, limiter la migration irrégulière dans les dites localités. La Haute Autorité de la Communication envisage un guide sur l'inclusion dans les médias en période électorale. Un atelier de réflexion pour l'élaboration de ce guide a débuté jeudi à Bamako. Insécurité à Badjangara, 4 combattants de Dana Massagou ont trouvé la mort mercredi dans une embuscade tendue par des groupes armés. L'incident s'est produit entre Tilégar et Songogar. Monsieur Dam, bonjour et bienvenue. Plus de 1900 jeunes des régions de Kayes et de Ségou bénéficieront de formations professionnelles comme alternative à la migration. Cette information a été donnée hier jeudi par l'Organisation internationale pour la migration, OIM. C'est lors du lancement du projet dénommé « Renforcement de la participation économique des jeunes dans les zones de départ de Kayes et de Ségou ». Projet Seidama, un reportage signé Lale Tangara.
Selon le chef de mission de l'OIM, Pascal Rendjens, plus de 52% de la population malienne en âge de travail sont en chômage. Une situation qui leur pousse à migrer vers d'autres pays à la recherche d'emploi, précise-t-il.
92% des migrants de retour interrogés déclarent que le manque d'emploi décent et d'opportunités professionnelles constitue la principale raison de départ.
Siaka Damele, président du conseil régional de Ségou, souligne que les jeunes vont en migration en raison d'employabilité. Il indique qu'une fois ces questions traitées, avec la mise en œuvre de ce projet, qu'ils n'auront plus besoin de migrer.
Il y a la migration, mais il y a d'autres effets pervers sur la vie sociale des populations. Les djihadistes caronnent les jeunes parce qu'ils n'ont rien à faire. Une fois qu'ils sont insérés dans la vie économique, il n'y a pas de raison qu'ils aillent dans ces trucs-là.
Les initiateurs du projet expliquent qu'ils visent à augmenter l'accès aux opportunités d'emploi, aussi créer des activités génératrices de revenus pour les jeunes pour mettre fin aux migrations irrégulières dans les dites localités. Le projet va durer 24 mois.
Rejoignez la communauté Studio Tamani en laissant vos critiques et suggestions sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Un atelier de réflexion pour l'élaboration d'un guide sur l'inclusion des médias en période électorale a débuté hier à Bamako. Cette initiative de la Haute Autorité de la Communication et de ses partenaires permettra également d'actualiser le code éthique et déontologique des journalistes. Ainsi, ses responsables espèrent qu'avec ces documents, les hommes de médias participeront à l'apaisement du climat social en période électorale. Mariam Koulibaly.
Pour Seydou Sissouma, représentant du président de la Haute Autorité de la Communication, la réalité est multiple et plurielle dans nos sociétés. Mais malheureusement, nos médias ne les reflètent pas souvent. Elle invite les médias à intégrer les enjeux d'inclusion et d'équité dans leur rédaction.
En tant que bénéficiaire de l'action publique, qu'est-ce qu'ils pensent du service qu'il leur est rendu? Lorsqu'ils veulent s'investir dans l'action publique, comment on leur donne les moyens de faire entendre ce qu'ils veulent? Quel est leur projet pour leur société? Cette double démarche, elle est utile pendant les périodes électorales parce que c'est là où c'est conçoit les projets de société qui gouvernent nos pays.
Le module Guide sur l'inclusion dans les médias en période électorale a été présenté par Alexis Calambri, expert média, lors de cette session.
En période électorale, c'est encore plus crucial parce que le tout n'est pas que les partis politiques s'expriment, que les sensibilités s'expriment, mais surtout que le point de vue des populations qui seront impactées par les politiques soit pris en compte.
Cet atelier de 2 jours est soutenu par la Fondation AIFES afin d'améliorer l'inclusion des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap dans les processus électoraux au Mali.
Un reportage signé Mariam Koulibaly. Restons dans le domaine des médias pour parler de cet autre sujet. Dans le quotidien des citoyens, chacun se sert de plusieurs moyens afin de s'informer sur les dernières actualités. Parmi ces moyens, il y a bien sûr la radio. Malgré l'ampleur des réseaux sociaux, elle reste encore la préférence de certains. Si pour ceux-ci, la radio est un canal sûr pour s'informer, d'autres cependant préfèrent l'Internet. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur la radio? Élément de réponse dans ce reportage de Adjaratou Konaté.
Nombreux sont ceux qui pensent que l'avènement des réseaux sociaux a été favorable pour la radio. Ils estiment chacun trouver son centre d'intérêt.
La radio est très importante parce qu'elle nous informe et conseille.
L'internet et la radio sont différents, à chacun sa préférence. En tant que jeune, je préfère écouter la radio parce qu'elle m'apprend beaucoup de choses.
Pour Boubacar Sanogo, directeur de la radio Nassaraoulé, malgré l'affluence des réseaux sociaux, la radio reste le moyen privilégié pour recevoir des informations fiables.
Les réseaux sociaux ont eu de l'impact sur la radio, mais pas autant, parce que la radio est le canal qui informe plus les populations. On peut écouter la radio partout, notamment dans la voiture, sur la moto, entre autres. Alors que les réseaux sociaux sont plus utilisés dans les milieux urbains que ruraux. Les nouvelles techniques de communication ne pourront pas remplacer la radio.
À noter que parmi tous ces moyens de communication, la radio reste toujours la préférence de nombreuses personnes, car selon eux, tout dépend de l'intérêt recherché.
Allons au centre du pays à présent où les attaques ne faiblissent pas dans la région de Badjangara. Des éléments de Dana Amasagou de retour d'une mission sont tombés dans une embuscade tendue par des groupes armés. Hier, 4 personnes ont trouvé la mort. L'incident s'est produit entre Tilegar et Songogar. Cap sur Kadjolo, où les aires de santé de Luluni, Lofigué et Zegua ont été dotées de plans d'action. Ces plans d'action s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre le fort taux d'abandon de la vaccination révélé dans les 3 aires de santé par une enquête réalisée par le district sanitaire avec l'appui de l'UNICEF. Une quarantaine de personnes ont participé aux travaux. On en vient à notre dossier de la semaine. La journée sans téléphone a été initiée par un livreur français il y a 22 ans. Initialement, la célébration était prévue pour une journée. Elle s'étend aujourd'hui du 6 au 8 février de chaque année depuis 2004. Ces journées interviennent à un moment où les téléphones portables, notamment les smartphones, occupent presque le quotidien de plusieurs personnes. Selon des sociologues et des spécialistes de la santé, l'utilisation abusive de ces objets n'est pas sans conséquence. Le dossier de la semaine s'intéresse à la question, une réalisation de Adama Amadou Haïdara.
C'est une formation.
Allô, ça va? Tu vas bien?
Ok, problème de temps.
Allô, ça va?
Tête baissée, des écouteurs dans les oreilles, dans les grains, en famille, dans les lieux de rencontre et même devant la télévision, voici ce qui caractérise le comportement de plusieurs individus depuis l'avènement du téléphone portable. Selon des interlocuteurs à rencontrer, se passer du téléphone portable n'est plus chose évidente, même si d'autres ne partagent pas cet avis.
Je ne peux pas me passer de mon téléphone pendant 3 jours. Moi, ça serait un peu me déconnecter. D'abord de mes proches et puis en plus du monde.
Je ne peux pas faire 3 jours sans téléphone. Impossible. Ne serait-ce que pour le travail.
Même 1 heure, je ne peux pas. Sans mon téléphone, non. C'est quasi impossible pour moi.
Tout le temps manipuler le téléphone, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de communication.
Si tu travailles tous les jours, c'est clair que ça va être compliqué. Mais bon, on peut quand même s'en passer.
Non, je ne peux pas me passer de mon téléphone parce que mon téléphone, c'est mon tout.
Le téléphone a révolutionné les communications dans le monde et a rendu le monde plus petit. À travers lui, on s'informe, on se divertit, on se forme et on est plus proche des siens. Cependant, selon des sociologues, malgré ses avantages, cet appareil a eu un grand coup sur la vie des sociétés. C'est ce que nous dit Drissa Sidibé, sociologue.
Les téléphones sont aussi nuisibles aux relations sociales parce qu'ils diminuent la qualité des interactions ainsi que l'empathie entre les individus. Ils offrent, avec ses multiples fonctions, autant de possibilités à l'être humain de s'isoler. Donc c'est ce qui fait que vous allez voir la plupart. Il n'a plus besoin de qui que ce soit, ni sa femme, ni ses enfants, ni son mari, même pas de causerie avec qui que ce soit. Les gens sont proches physiquement, mais mentalement, ils sont très loin.
Les spécialistes de la santé abondent dans le même sens. Selon Dr Ousmane Yanougué, cet appareil nuit également à la santé humaine.
Les téléphones émettent des ondes à la fois électriques et magnétiques. L'accroissement de la puissance de ces ondes au fil du temps, qu'est-ce que ça se passe? Ça rend l'homme fatigant, ça donne des stress, ça peut donner des anxiétés, des maux de tête, des yeux souvent rouges. Il y a des pertes de mémoire au niveau du cou, même les doigts. Il y a beaucoup de parties qui seront touchées par l'utilisation de ces téléphones.
Malgré ces différentes séquelles que peut causer le téléphone portable, son utilisation n'est pas modérée par ses utilisateurs. Pour certains, c'est le train de vie actuel qui l'impose. Le portable est devenu un outil de travail pour beaucoup de personnes.
Un dossier signé Adama Amadou Haïdara. Ainsi prend fin cette édition qui vous a été présentée par Mariam Maïga. La mise en onde est assurée par Mamadou Ouattara. Ne décrochez pas car juste après le magazine, vous aurez
la version en bambara avec Aissata Diarra. Si vous voulez réécouter cette information, c'est possible sur notre site internet au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Excellent début de week-end à toutes et à tous.
Lundi 13 février 2023, journée mondiale de la radio. Studio Tamani et l'URTEL ensemble pour marquer l'événement.
Cérémonie à la maison de la presse à partir de 10h sur le thème Radio et paix.
La radio, un outil de paix.
Les agents des radios, des acteurs de paix.
Studio Tamani et l'URTEL pour une fête de la radio, une fête des hommes et des femmes qui font la radio au Mali.
L'événement est placé sous la présidence du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Modernisation de l'État, ainsi que du président de la HAC.
Lundi 13 février 2023, à la Maison de la Presse, à partir de 10h.
Studio Tamani et URTEL,
ensemble pour contribuer à travers la radio,
au développement harmonieux de la société
et à la paix au Mali.
Notre magazine « Tous les enfants du Mali » d'aujourd'hui s'intéresse à l'excision. C'est une pratique ancrée dans les traditions au Mali. Selon l'enquête démographique de santé de 2018 au Mali, 76% des filles ont subi les mutilations génitales féminines avant l'âge de 5 ans. Cette pratique traditionnelle se poursuit dans plusieurs sociétés en dépit des efforts fournis par certaines organisations non gouvernementales. Elle demande une loi pour incriminer l'excision au Mali. Ce magazine est réalisé et présenté par Moussa Malé Sissoko.
La pratique a généralement lieu avant l'âge de 5 ans dans plusieurs communautés. Toutefois, certains parents apprécient différemment l'excision. Certains se disent conscients des conséquences. D'autres, en revanche, ne veulent pas s'en défaire.
Je pense qu'on devrait mettre fin à ces phénomènes à Ségou. Je ne compte pas abandonner cette tradition ancestrale. L'excision honore la femme.
Il y a eu une grande mortalité de jeunes excisés à Tombouctou vers les années 1935-1940. Et après, on avait décidé de mettre fin à cette pratique-là.
Ce n'est pas dans nos us et coutumes.
Docteur Keïta Fadima Tall est directrice du programme national de lutte contre les VBG, violences basées sur le genre. Elle entend multiplier les actions de sensibilisation pour l'abandon des mutilations génitales féminines.
Nous sommes en train de sensibiliser les populations sur les dangers de l'excision. Même s'il n'y a pas de loi, avec la vulgarisation, elle voit même arrêter la pratique.
Sensibilisation des quais. Outre le programme national de lutte contre les VBG, certaines ONG œuvrent pour l'abandon de l'excision et du mariage des enfants. C'est le cas de l'ONG Tanyé qui, à travers ses approches, a pu amener plusieurs villages dans la région de Koulikoro à laisser le couteau. Madame Kone Kadiatou Diallo, agent à l'ONG Tanyé.
On a des agents qui sont des animateurs, des animatrices qui passent aux différents villages. On peut donner 5, 6 à 10 villages à un animateur. Sensibiliser les femmes, les hommes, les leaders communautaires, les religieux surtout. Parce que notre plus grand problème se situe à ce niveau. On a eu beaucoup de villages. À Kati, ici, on est dans 9 communes. On intervient à Kolokani aussi. On était à Koulikoro aussi. Voilà. En tout, on peut prendre plus de 500 villages comme ça qui ont signé avec Tanyé. Ils ne pratiquent plus l'excision.
Pour le sociologue Fodié Tandjigora, la sensibilisation sur les méfaits de la pratique semble montrer ses limites. Il préconise une loi qui incrimine les mutilations génitales féminines au Mali.
L'excision est pratiquée dans beaucoup de pays du Sahel, majoritairement même au Mali ici, mais aussi dans certains pays beaucoup plus éloignés comme au Soudan. Mais j'aimerais préciser que ce n'est pas du tout religieux. Je veux dire le taux de prévalence dans les pays extrêmement religieux, c'est 0% ou 0,1%. Les sensibilisations ont prouvé leurs limites. Je crois qu'il faut peut-être aller vers la répression. C'est-à-dire qu'au niveau des centres de santé, parce que l'excision se passe là-bas aussi, au niveau des exigences qu'on a longtemps sensibilisées pour déposer le couteau, mais malgré tout, ça continue. Employer ce que j'appelle le bâton et la carotte. En même temps sensibiliser, mais continuer à faire la répression.
La sage-femme Fanta Bereté témoigne que la pratique de l'excision traditionnelle affecte beaucoup la vie de la femme. La sage-femme rappelle que l'excision peut entraîner différentes complications médicales, notamment l'hémorragie.
L'excision, c'est vraiment une pratique très néfaste. Premièrement, c'est une violence physique. Et les lieux de l'excision, les gens peuvent se contaminer, soit par le VIH, soit par l'hépatite, soit l'hémorragie. tu peux tomber sur un enfant hémophilie dont tu ne sais pas. L'enfant peut saigner jusqu'à mourir. Les femmes excisées quand même au moment de leur accouchement, ce n'est pas facile.
Pourtant, la pratique de l'excision persiste toujours dans les communautés. Elle demeure un sujet tabou dans plusieurs milieux. Actuellement, il n'existe aucune loi au Mali qui punit spécifiquement la pratique des mutilations génitales féminines.